Je voudrais commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire non cédé des Ganyankéhaga, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Alors, un phoque se fait tuer sur la banquise. Brigitte Bardot enlace un Blanchon. Une activiste s'asperge le corps de sang, couché sur un drapeau canadien. Ces exemples sont tous des images qu'on a vues et revues dans les médias. La controverse de la chasse aux phoques dans le Grand Nord canadien a fait couler beaucoup d'encre et jusqu'encore très récemment, un des principaux acteurs concernés n'était pas ou peu mentionné, soit les Inuits. En effet, on parle toujours de la chasse aux phoques canadienne et très rarement de la chasse aux phoques inuits, quand ces derniers sont durement touchés par les embargos qui sont imposés aux produits de phoques depuis 30 ans. Dû à leur situation géographique, très très au nord, les Inuits sont le peuple autochtone qui reçoit le moins d'attention médiatique au pays. Et c'est entre autres pour cette raison que j'ai eu envie un peu de saisir l'occasion de ce colloque pour donner une meilleure visibilité à leur point de vue et à leurs expressions créatrices entourant la chasse aux phoques. Puisque je ne suis pas une biologiste, ni encore une spécialiste des questions légales entourant la chasse aux phoques, je vous propose aujourd'hui des réflexions sur l'utilisation d'images visant à créer un sentiment de sympathie ou à choquer, tant par les groupes de protection des animaux que par les Inuits. Dans un second temps, je vais plutôt m'attarder à la manière dont s'exprime la vision éthique de la chasse et la relation aux animaux dans l'imaginaire inuit à travers différents exemples visuels contemporains. Le point de départ de ma présentation est le mouvement des Sylphies, créé par des Inuits du Nunavut en 2014 pour s'opposer aux organismes qui dénoncent la chasse aux phoques dans le Grand Nord canadien. La controverse des Sylphies a débuté aux Oscars lorsque la présentatrice Ellen DeGeneres a versé le cachet qu'elle a reçu par Samsung pour faire le fameux égo-portrait avec des vedettes hollywoodiennes à la Humane Society of the United States. C'est un organisme contre la chasse aux phoques. En 2011, Ellen DeGeneres s'était déjà opposée, en fait, sur son blog aux prises de position canadiennes quant à la chasse aux phoques inuits. Ouais, quant à la ch chasse aux phoques. Pour répondre à ce geste, en fait, des Inuits, dont par exemple la réalisatrice Alethea Arnacook-Barrile ou la chanteuse de gorge Tania Tangak, ont diffusé sur les réseaux sociaux des égo-portraits dans leur plus beau habit fait de peau de phoque, d'où le jeu de mots, Sylphie, pour mettre de l'avant que leur mode de vie traditionnel préconise un type de chasse responsable. Dans une lignée similaire, en 2006, des étudiants d'une école secondaire au Nunavut avaient diffusé sur les réseaux sociaux un mème tournant au ridicule les images où les activistes animaliers enlacent un pauvre Blanchon terrorisé. Ce mème, en fait, invitait les organismes de protection des animaux à se concentrer plutôt sur les normes de l'industrie bovine, à la place d'utiliser le phoque, excusez-moi pour le jeu de mots, mais comme une vache à lait, leur permettant de récolter de l'argent sans prendre en compte du préjudice culturel que subissent les Inuits depuis des décennies. Pour mieux comprendre le contexte dans lequel s'insèrent un peu ces deux exemples, je voudrais faire un tour d'horizon avec vous, tant conceptuel qu'historique, autour de la question de la chasse aux phoques. Les informations que je vous présente ici proviennent entre autres des statistiques et des documents qui sont mis disponibles sur le site de Pêche Canada. Tel qu'identifié alors ici en jaune, la chasse aux phoques est pratiquée autour du cercle arctique par différentes communautés autochtones, majoritairement les Inuits, donc en Alaska, au Canada, au Groenland, mais aussi en Russie. Au Canada, le phoque est un des principaux aliments de subsistance chez les Inuits. Sa viande est particulièrement nutritive dans une région où le coût de la nourriture est le plus haut au pays. Par exemple, chez les Inuits, un sac de pâtes coûte 12 $, un chou peut coûter jusqu'à 28 $. Paradoxalement, c'est chez les Inuits que le taux de chômage est le plus élevé au Canada. La chasse aux phoques étant le gagne-pain principal de plusieurs familles de chasseurs et de couturiers et couturières. Les Inuits ne pratiquent donc pas seulement une chasse de subsistance, et ça c'est important de le garder en tête, mais aussi une chasse de type commercial. Ils participent activement à l'économie globale. Bien que je vais moins aborder cet aspect dans cette présentation, j'aimerais quand même spécifier qu'il y a un deuxième type de chasse au Canada, beaucoup plus industriel, qui a lieu ici en rouge à Terre-Neuve et aux îles de la Madeleine et que c'est mené en fait par des pêcheurs locaux canadiens. Cette pêche vise surtout la vente de pelleteries, donc de la fourrure. La viande de phoque est encore très peu utilisée, malheureusement, même si tout récemment, en fait, des chefs des maritimes se donnent comme mission d'introduire le phoque dans la gastronomie régionale. Au Canada, il y a six sortes de phoques qui sont chassées. C'est majoritairement le phoque du Groenland et à plus petite mesure, le phoque gris qui sont chassés. La population actuelle de phoques est estimée, selon Pêche Canada, à 8 millions. Le phoque n'est donc pas un animal en voie d'extinction, même les groupes animaliers, le disent ouvertement. Les études démontrent que le phoque peut supporter une chasse contrôlée par des règles strictes et des quotas, comme c'est le cas présentement, sans danger pour la survie de l'espèce. La première campagne s'opposant à la chasse au phoque débute dans les années 60 et était menée par l'International Fund for Animal Welfare et Greenpeace. Cette première vague d'activisme était fondée sur un constat tout de même inquiétant. La population de phoques en Arctique avait baissé environ de 20 ans à 4 à 1,5 millions. Et c'était en fait dû, entre autres, à une accélération de la pêche industrielle dans le sud du Canada, donc autour de l'île de la Madeleine et de Terre-Neuve. C'est à cette époque que les groupes de protection des animaux commencèrent à mettre en place vraiment une imagerie très forte visant à toucher la fibre émotionnelle du grand public, telles par exemple des photographies de cadavres de phoques, souvent des blanchons, ensanglantés, faisant ainsi contraste avec la blancheur éclatante de la banquise. On verra aussi beaucoup d'images dénonçant la cruauté de la technique de mise à mort des phoques par un coup de bâton, on appelle ça le hakapik, derrière la tête. Selon Pêche Canada, les vétérinaires ont établi que cette technique serait la manière la plus rapide et la moins douloureuse de tuer les phoques, même plus qu'un coup de fusil. De plus, le mot blanchon est souvent remplacé par le terme bébé phoque, même parfois chiot ou chien des mers. L'objectif est bien entendu d'humaniser le phoque hein, pour que la cause ait un meilleur capital de sympathie, particulièrement chez une population euro-américaine et urbaine dont le seul contact avec des animaux morts se fait à l'épicerie. L'Union européenne interdira l'importation des produits de blanchons, hein, donc juste des fameux bébés phoques, en 1982. Malgré qu'on continue de voir le blanchon dans l'imagerie qu'utilisent les activistes animaliers, il est important de spécifier que le Canada, lui aussi, a interdit la chasse aux blanchons 5 ans plus tard, en 1987. Dans ce premier embargo, il y avait quand même une clause, en fait, permettant l'importation de produits artisanaux traditionnels issus de la chasse dite de subsistance des communautés autochtones. Étant donné que les Inuits ne chassent pas le blanchon, on aurait pu penser que l'embargo de l'Union européenne n'aurait aucun impact sur les communautés. Malheureusement, les campagnes répétées des groupes animaliers avaient irrémédiablement ruiné la réputation de la chasse commerciale du phoque dans l'imaginaire collectif. Et cela sera désastreux. En quelques mois, tout le marché de l'industrie du phoque va s'effondrer. La demande de produits à base de phoque baisse drastiquement, tant pour les Inuits que les chasseurs canadiens. À titre indicatif, selon le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, 18 des 20 villages inuits au Canada vont perdre jusqu'à 60% de leurs revenus collectifs et parfois même plus durant les années 80 à cause de l'embargo. Relevé au public en 2016, le documentaire Angry Inuk de la réalisatrice Alitia Arnacook-Baril explique l'importance de la chasse aux phoques dans le mode de vie inuit. La réalisatrice qualifie sur sa page Facebook ce documentaire comme étant son ultimate selfie. Selon elle, le mouvement des selfies fut le médium ayant eu le plus d'influence positive pour diffuser au grand public la voix des Inuits. Par exemple, un des gains du mouvement fut que Joanna Kerr, la directrice générale de Greenpeace Canada de l'époque, s'est excusée dans une lettre ouverte en juin 2014 par rapport aux dommages que leurs campagnes de sensibilisation ont eus sur l'économie et la culture inuite. Durant le tournage en 2009, ça lui a quand même pris 8 ans à faire ce film, Arnacook-Baril s'est rendue avec d'autres représentants inuits à Strasbourg pour un autre vote crucial. En effet, sous une nouvelle pression des groupes animaliers, l'Union européenne allait voter cette fois-ci une interdiction d'importation beaucoup plus sévère concernant tous les produits de phoque, et non plus seulement les blanchons. Il faut spécifier que cette nouvelle interdiction n'avait pas les mêmes assises biologiques que celle de 1982, puisque la population de phoques était bien rétablie et était même à la hausse. Une scène très marquante du documentaire, c'est lorsqu'on voit des activistes qui distribuent aux députés européens des peluches de blanchons à l'entrée du vote, à l'image du nombre important de peluches présents sur le bureau des députés le 5 mai 2009. Ce nouvel embargo passera à 550 votes pour et 49 contre. Si les communautés inuites étaient bien entendu prêtes hein, à renégocier les quotas ou les périodes de chasse, l'Union européenne n'a pas jugé pertinent de les inviter à témoigner de leur réalité en Arctique. Il y aura une clause, encore une fois, permissive concernant les produits faits par les Inuits, mais sans grand résultat. Avant 2009, 30% des acheteurs des produits de phoque sur le plan mondial étaient européens. Ce nouvel embargo eut donc de graves conséquences pour les Inuits. Une peau de phoque qui se vendait 100 $ au Nunavut avant 2009 se vend présentement, et vraiment, je suis généreuse, au maximum de son prix. Au maximum, à la moitié de son prix, donc autour de 50 $. C'est plus autour de 30 en ce moment. Actuellement, il y a plus de 35 pays au monde, dont les États-Unis, le Mexique et plus récemment l'Inde, qui interdisent les produits issus de la chasse aux phoques. L'Inde, c'est... En fait, l'annonce a été faite la semaine dernière. Certains disent que ce serait un des résultats du fameux voyage de Trudeau en Inde qui s'est pas très bien passé. Ouais. L'interdiction de la chasse aux phoques met en péril la souveraineté alimentaire et l'autonomie économique des Inuits. Plusieurs Inuits soulignent que cette situation est une des conséquences contemporaines du colonialisme par les Euro-Américains et une atteinte supplémentaire aux droits des Inuits à l'autodétermination et à la gestion de leur faune, de leur territoire et de leur océan. Sur le plan légal, l'auteur et avocat Michael Farkey explique en fait que l'interdiction de la chasse aux phoques par l'Union européenne serait aussi un moyen détourné d'exprimer leur autorité en Arctique, hein, un territoire qui sera de plus en plus disputé dans les prochaines années en raison de ces nappes de pétrole, entre autres. Par rapport aux fameuses clauses permissives des embargos concernant les peuples autochtones, elles sont aussi beaucoup dénoncées par les Inuits. En qualifiant la chasse menée par les Inuits comme étant uniquement de subsistance ou visant à produire des objets artisanaux, on nie qu'ils participent activement à la chasse commerciale, dont les retombées sont vitales pour les communautés. Ce genre de propos ne sert qu'à déculpabiliser les députés et l'opinion publique, en donnant la fausse impression que la chasse pratiquée par les Inuits ne serait pas influencée par un effondrement du marché. Cette clause renforce aussi une image stéréotypée des Inuits qui vivraient encore dans un passé révolu et ne seraient pas inclus dans l'économie globale. Le mouvement des Sylphies visait aussi à mettre de l'avant un peu la particularité des relations qu'entretiennent les Inuits avec les phoques, et plus largement, tous les animaux de l'écosystème arctique. Même si les Inuits sont aujourd'hui en majoritairement chrétiens, il y a certaines croyances et pratiques propres à leur cosmogonie qui continuent d'être préservées, notamment en lien avec l'ontologie de l'animisme, hein, qui a été théorisée par l'anthropologue Philippe Descola. Les Inuits croient que tous les êtres vivants ont une intériorité similaire, et c'est ainsi seulement la nature de leur physicalité qui les différencie les uns des autres. Le concept aussi de métamorphose est très présent dans la cosmogonie inuite, tant les animaux que les humains auraient la capacité de se transformer en une autre espèce. Ces transformations sont abordées dans la mythologie inuite, où les animaux sont considérés comme étant des descendants des humains. Le récit de Sedna, la femme océan, en est un parfait exemple. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous raconter au complet l'histoire de Sedna, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. J'aimerais juste mentionner la fin du récit, qui s'avère particulièrement pertinent dans le cadre de cette présentation. L'histoire raconte qu'un jour, Sedna est prise dans une tempête, sur une petite embarcation avec son père. Pour se sauver, son père décide de pousser sa fille dans la mer. Mais Sedna se cramponne au bateau avec ses mains. Son père coupe alors ses doigts. Sedna se noie et tombe au fond de l'océan. Ses doigts vont devenir des animaux marins, dont les phoques, et Sedna, la maîtresse de la mer. La figure de Sedna, mais aussi le concept de métamorphose, font un retour présentement dans l'art contemporain autochtone, tel qu'on peut le voir ici dans ces deux œuvres récentes des artistes Heather Campbell et Ulyaha Pilurtut. Pour les Inuits aussi, les animaux existent pour être chassés. Hein? La relation de respect entre le chasseur et la proie sont vraiment au centre de leur univers. Par contre, les animaux ne sont pas considérés comme des victimes sans défense, mais plutôt des êtres intelligents qui décident de donner leur vie à un chasseur qu'ils trouvent digne en raison de ses qualités. Par exemple, il n'insulte pas ni ne fait souffrir ses proies, il partage équitablement sa viande avec le reste de la communauté et il ne transgresse pas certaines règles et il met en place différents rituels, comme on parlait tantôt, qui visent à maintenir l'harmonie dans l'écosystème. Les Inuits croient aussi à la réincarnation, ça c'est très important. Les animaux auraient en effet la capacité de revivre en d'autres formes animales. Dans cette perspective, un animal veut se faire tuer par le chasseur quand il a envie, en fait, de changer de forme. L'anthropologue Frédéric Laugrand, que c'est vraiment un grand spécialiste au Québec de la cosmogonie inuite, précise que le chasseur et la proie sont donc connectés un peu dans un cycle d'échange. Hein, le chasseur dépend de l'animal pour sa survie et l'animal dépend du chasseur pour se réincarner et vivre une nouvelle vie. Je vous propose pour finir un extrait d'un court-métrage qui représente une vision éthique de la chasse, mais aussi qui illustre bien, je pense, l'amusante en conjonction des mots « self » et « seal », où l'identité inuite s'unit à celle du phoque. Réalisé en 2009 par Félix Lajeunesse et Paul Raphaël, le court-métrage « Tungijuk », ça veut dire « il, elle se transforme » en Inuktitut, met en scène la chanteuse Tania Tangak, qui se transforme en loup, en caribou et en phoque, passant donc sans cesse du rôle du chasseur à la proie. Vu le temps qui passe, hein, je vais juste vous montrer les dernières minutes du vidéo, mais qui est disponible sur YouTube si ça vous intéresse. Dans cet extrait, Tangak est dans sa forme humaine. Vous allez voir qu'elle est couchée sur la banquise, nue, avec un morceau de viande de caribou sur son ventre, avant qu'elle se métamorphose en phoque. Ce court-métrage illustre bien que les frontières entre les espèces sont particulièrement fluides dans l'épistémologie inuite. Je voudrais aussi préciser que les réalisateurs ont décidé volontairement de montrer le sang et les cadavres d'animaux, des images qui ont été utilisées abondamment par les activistes animaliers pour choquer le public, dans l'objectif ici contraire de démontrer que les Inuits n'ont pas honte de leurs pratiques éthiques et responsables de la chasse. Kiwi Martin, une spécialiste en littérature autochtone, propose que le court-métrage ne soutient pas une esthétique de la mort, mais fait plutôt référence à la reproduction et à la naissance, en lien avec le concept de réincarnation propre aux cosmogonies autochtones. On peut d'abord penser à cette scène où Tangak, nue, caresse un morceau de viande de caribou, comme elle en lancerait un peu son bébé. Lorsqu'elle plonge dans l'eau, dans une mare de sang, cela représente une nouvelle naissance. Le caribou mourant devient un phoque et revit. L'image de la fin, le phoque éventré, illustre un autre portail dans lequel la vie sort et repasse de la bouche de Tangak. Cette prépondérance du sang, un marqueur de violence, symbolise ainsi le cycle de la vie. Je voudrais finir cette conférence par un commentaire sur le regard que lance Tangak à la fin du court-métrage, lorsqu'elle mange un morceau de phoque cru. Kiwi Martin qualifie ce regard de plaisir, ou peut-être de gourmandise, comme étant provocant, et une réponse directe à une controverse politique qui avait lieu en 2009, quelques mois avant le tournage du film. Les journalistes avaient pris en photo Michaël Jean, alors gouverneur du Canada, lorsqu'elle participait à un festin communautaire à Rincon Inlet, un village au Nunavut. On la voit en train de prendre une petite bouchée de phoque cru et s'essuyer ensuite discrètement la bouche. Cette photographie sera abondamment reprise par des groupes de défense des animaux. Par exemple, le président de PETA dira que la gouverneure donne une mauvaise image, proche de l'homme de Néandertal, de tous les Canadiens à l'international. Tangak, par son regard et en refaisant avec fierté le même geste de Michaël Jean, s'adresse donc à tous les détracteurs qui trouvent que la chasse aux phoques est une pratique barbare. Finalement, et pour conclure, dans le contexte actuel où le poids des images a une importance capitale et marque les imaginaires, le mouvement des selfies, Angry Inuk et, le court-métrage Tungijuk détourne avec succès, parfois de manière amusante, une conceptualisation uniquement négative et sanguinaire de la chasse aux phoques qui mérite d'être nuancée, voire remise en question.